Alors, après avoir parlé de Dieu, de son existence, de ses attributs, et puis finalement des mystères, et en particulier du mystère de la Sainte Trinité, qui nous introduit en plein surnaturel, nous avons une petite leçon intermédiaire avant d'attaquer la question de l'homme, sa nature, et puis le péché originel, et finalement la solution du péché originel, eh bien, le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Nous avons une petite leçon intercalaire, si je puis dire, sur les anges. J'allais dire, par rapport à notre salut, les anges sont une question à la limite facultative. Évidemment que c'est deux fois, donc tout chrétien doit croire qu'il y a des anges. Mais enfin, c'est un petit luxe dans la révélation, en ce sens que c'est Dieu qui nous sauve, c'est le mystère de l'incarnation. Toutes les autres leçons, vous voyez, sont absolument indispensables à notre salut. Dieu nous a révélé les anges. Bon, alors, bien sûr, s'il l'a fait, il l'a bien fait. Mais, à la limite, il aurait pu ne pas nous parler de l'existence des anges. Il aurait pu. Et ça ne changerait pas grand-chose, si vous voulez, à l'économie de notre rédemption. Et, par contre, enlever une autre leçon, ça, c'est pas possible. Enlever le péché originel, on comprend plus l'incarnation. Enlever l'incarnation, il n'y a plus rien à comprendre. Dieu, etc. Donc, il y a une petite leçon luxueuse, si vous voulez. Seulement, Dieu n'y est pas allé de main morte, parce que si vous regardez la Sainte Écriture, il est question des anges de la première page à la dernière, sans aucune exception. Sans aucune exception. Alors, entre Dieu, infini et totalement simple, puisqu'aucune distinction n'existe en lui, vous souvenez, il n'y a pas la moindre distinction en lui, c'est un des attributs de Dieu, c'est la simplicité à l'état pur, aucune distinction, c'est-à-dire pas de matière ni de forme, puisqu'il n'est que forme, il n'est qu'esprit, il n'a pas de corps, et il n'y a surtout pas en lui la distinction qui fonde toute créature. C'est quoi la distinction qui fonde toute créature ?
Son être et son existence.
Voilà, l'être entre l'essence et l'existence. Voilà. Alors ça, on peut dire que c'est la définition de Dieu, hein, l'être dont l'essence est d'exister. Et bien c'est précisément l'absence de cette distinction en Dieu qui fait qu'il est Dieu, tout simplement. Alors il existe d'autres créatures, et l'homme d'une part, Dieu d'une part et l'homme d'autre part. Alors l'homme est l'être le plus compliqué, on le reverra la semaine prochaine. Il y a toutes les distinctions possibles et imaginables en l'homme. C'est plus compliqué qu'un animal, un homme. C'est plus compliqué qu'un ange, et c'est infiniment plus compliqué que Dieu. C'est d'ailleurs la grande misère de l'homme, c'est sa complication. Eh bien, il existe une place, j'allais dire théoriquement, il y a une place laissée libre de créatures entièrement spirituelles, évidemment, donc matière et forme, cette distinction n'existe pas, mais évidemment qui sont des créatures où l'essence et l'existence sont distincts. Voilà, là il y a un créneau. Eh bien, ce créneau, on pourrait le deviner. Les anciens l'avaient, même ceux qui n'avaient pas la foi, l'avaient deviné. Les esprits, ils y croyaient, il n'y a pas de doute. Alors, ils n'en avaient pas une vraie théologie, parce que comme on ne peut pas les voir, et on peut se fonder uniquement sur la révélation, eh bien, la révélation, précisément, nous dit qu'ils existent. Voilà, que Dieu les a créés, et dans une magnificence qui est absolument impressionnante. Mais c'est la révélation qui nous dit qu'ils existent. Sauf, évidemment, que comme ils existent, puis comme on va voir, il y en a des bons et des mauvais, c'est-à-dire c'est plutôt par le truchement des mauvais esprits que les hommes avaient conscience de l'existence de ces créatures qu'on appelle les anges. Parce que on voit bien que chez tous les païens, ils croyaient à des esprits, et puis à des esprits mauvais essentiellement, hein, essentiellement. Qui intervenait à peu près partout. Le psaume de David, hein, que nous lisons régulièrement, dit que toutes les idoles des nations sont des démons. Et c'est vrai que le démon s'est fait adorer, s'est fait rendre un culte dans ce culte idolatrique à peu près universellement. Alors, premièrement, nature et existence des anges. Deuxièmement, l'intelligence des anges. Troisièmement, la grâce des anges. Quatrièmement, le nombre des anges. Cinquièmement, l'épreuve des anges. Sixièmement, hiérarchie et cœur des anges. Et finalement, septièmement, influence des anges. Voilà, nature et existence. Les anges sont des êtres spirituels, sans corps ni matière, créés par Dieu pour sa gloire. On voit bien que dans la Sainte Écriture, dans les psaumes, il nous est tout le temps raconté que il a fait ses anges des flammes ardentes, hein, qui sont à son service. Chaque ange, ça c'est très important pour comprendre un peu ce monde angélique, a sa nature particulière. à lui. La nature d'un ange n'est pas la nature d'un autre ange. Il faut pas classer les anges comme les hommes. Les hommes, les 4 milliards ou 5 milliards d'hommes qu'il y a sur la planète, ont tous exactement la même définition, ont tous la même nature, c'est-à-dire des créatures composées d'une âme rationnelle et d'un corps. Ça, c'est la nature de l'homme, et tous les hommes ont la même nature. Qu'est-ce qui distingue un homme d'un autre? Je crois qu'on a déjà eu l'occasion de le dire, c'est la matière qui distingue un homme d'un autre. C'est le principe d'individuation. Si vous voulez, dans la nature humaine, qui est unique, il y a 4 milliards et quelques suppôts, c'est-à-dire représentants de cette nature, qui se distinguent l'un de l'autre formellement par leur corps. C'est parce que le corps de l'un n'est pas le corps de l'autre qu'ils se distinguent. On me dirait, mais alors, nos âmes sont toutes les mêmes? Non. Parce que, à la création, oui. À notre création, nos âmes sont toutes les mêmes. Sauf que nos âmes n'existent pas avant notre création. Bon, la Palisse en aurait dit autant. Et comme l'âme est la forme du corps, elle est créée dans un corps. Donc elles sont immédiatement différentes, les âmes, à leur création. Pas avant leur création. Dans la pensée de Dieu, elles sont les mêmes. Sauf que elles sont immédiatement individuées par tel corps. Voilà. S'il y a des gens intelligents et d'autres qui sont un peu plus limités, c'est à raison du corps. S'il y a des gens qui ont du caractère et d'autres qui... C'est encore à raison du corps. C'est le corps qui nous individualise. Bon, ben tout ça, évidemment, n'existe pas chez les anges. Puisqu'ils n'ont pas de matière, ils ne sont pas individués. Donc, où il n'y aurait qu'un seul ange, s'il n'y avait qu'une nature angélique, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on nous dit qu'il y en a des millions et des millions, bon... Et peut-être bien plus que ça d'ailleurs, des milliards plutôt. Et donc, il faut conclure absolument, il n'y a pas moyen en philosophie de faire autrement, c'est que la nature d'un ange n'est pas la nature d'un autre ange. Voilà, ils ont vraiment une nature différente. Et voyez un peu la richesse du monde angélique. Si vous voulez, l'homme, à lui seul, enfin plutôt tous les hommes, ne comptent que pour un par rapport aux anges, au monde des anges. Ce qui donne déjà une petite idée de la richesse de ce monde angélique. Troisièmement, l'essence et l'existence sont distinctes chez l'ange, bien sûr. Ça, c'est la définition, je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute créature. Donc, un ange est tel être, et puis il a reçu de Dieu l'existence. Sinon, on parlerait de Dieu. Deuxièmement, quatrièmement, l'être et l'agir sont également distincts. Vous vous souvenez que chez Dieu, entre être et faire, il n'y a pas de distinction. Chez nous, c'est évident qu'il y a cette distinction. Il y a ce que nous sommes et ce que nous faisons. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Chez Dieu, non. Quand Dieu fait quelque chose, lui, il n'est pas modifié en rien. Il est. La seule chose qui se passe quand Dieu fait quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui se modifie en dehors de lui. Mais lui, qui fait les choses, n'est pas modifié. Nous sommes modifiés par notre action. Bon, si vous travaillez toute la journée à une œuvre physique difficile, vous vous apercevez que vous êtes fatigué. Et votre action vous a modifié. Si vous cogitez très fort pendant toute la journée, ou si vous faites du courrier toute la journée, ça vous modifie. Vous voyez? Mais Dieu, comme Dieu est immobile, quand il fait quelque chose, ça ne le modifie en rien. Ça ne le change pas. Et lui, à la limite, ne bouge pas quand il fait quelque chose. Ne bouge pas. La seule chose qui se fait, c'est la chose en dehors de lui, c'est l'effet de son action. Et c'est quand même tout à fait étonnant. Un ange, par contre, ce qu'il est et ce qu'il fait sont absolument distincts, comme chez nous. Et ça, j'allais dire, le fait que Dieu ne change pas quand il fait quelque chose, lui est tout à fait propre. C'est parce que précisément, il n'y a pas cette distinction entre l'essence et l'existence en lui. Et enfin, dernier point, tout ange est doué d'une intelligence et d'une volonté. Comme tout être spirituel, ça c'est le, c'est le propre, c'est le propre de tout être spirituel. Il a un être, une substance spirituelle, et à toute substance spirituelle, il y a une connaissance, et dont la faculté de l'intelligence, et il y a une volonté, et un amour, si vous voulez, dont la faculté et la volonté. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que les anges ont de la mémoire, ou c'est
La mémoire, il y a deux choses dans la mémoire. Il y a la mémoire sensible, que évidemment les anges n'ont pas. Nous, on a une petite partie du cerveau qui enregistre les images, hein, qui est minuscule d'ailleurs par rapport à ce qu'elle est capable de faire. C'est un des sens internes, la mémoire. C'est une partie de l'imagination qui classe les images et les repères sensibles, mais par rapport au passé, c'est tout. Alors cette mémoire-là, les anges ne l'ont absolument pas. Mais on a aussi une mémoire conceptuelle, nous. C'est-à-dire que quand on a compris quelque chose, il n'y a pas besoin de nous l'expliquer de nouveau. Et c'est d'ordre intellectuel. Alors cette mémoire-là, les anges l'ont. Évitez la distinction, puisque je crois que c'est votre question, évitez la distinction des jésuites, là, en les trois catégories, les trois facultés de l'homme, intelligence, volonté, puis on vous trouve autre chose. Alors, de temps en temps, c'est la sensibilité, mais c'est pas spirituel, la sensibilité, par définition. C'est le cœur, c'est l'amour, ça c'est bon. On sent bien, évidemment, qu'il y a chez l'homme un intermédiaire entre le sensible et le... un lieu de rencontre, plus exactement, entre le sensible et l'intellectuel, mais ça n'est pas à lui-même une instance. Il n'y a pas de faculté intermédiaire entre le sensible et le spirituel. C'est ce lieu de rencontre qui fait ce qu'on appelle le cœur humain. Voilà. Mais ce ne sont pas des réalités distinctes. Voilà, alors pour répondre à votre question, eh bien, il n'y a pas de mémoire sensible chez les hommes, parce qu'il y a aucune sensibilité chez les anges, puisqu'il n'y a aucune sensibilité, mais il y a, comme chez nous, une mémoire intellectuelle. Une fois que vous avez compris ce que c'est qu'un, je sais pas moi, un concept, vous avez, eh bien ça, vous le retenez. Il n'y a plus qu'à puiser dans le casier, au moyen du langage, vous allez chercher ce concept, et vous l'avez déjà compris, il n'y a pas besoin de le recomprendre. Hein. Si vous avez fait un peu de maths... Eh bien, vous, une fois que vous savez ce que c'est qu'une équation, ben à chaque fois que vous reparlez d'équation, vous n'avez pas besoin. Or, la compréhension, l'équation, quand vous allez la chercher, ben c'est dans le domaine de l'imagination, pour la sortir de son casier. Bon. Mais quand vous l'avez sorti de son casier, ce que c'est qu'une équation en mathématiques, par exemple, ou le théorème de Pythagore, eh bien, vous n'avez pas besoin de le recomprendre. Il y a donc bien une mémoire intellectuelle. Voilà, mais elle conserve rien, c'est ça qui est très intéressant, c'est sous forme d'habitus, tout simplement. C'est les habitus intellectuels qui sont la mémoire intellectuelle. Parce que en soi, l'intellectuel n'est pas en acte permanent chez nous. Donc c'est conservé sous forme d'habitus, et c'est la science, tout simplement. La mémoire intellectuelle, c'est la science. Avançons, l'intelligence des anges. Puisqu'on parlait de l'intelligence, eh ben, disons un mot de l'intelligence. L'ange ne peut pas, comme nous, tirer... de la matière et des sens, ses idées. Ça, c'est le propre de l'homme. D'où nous viennent nos idées? Par abstraction du sensible. Voilà, je ne refais pas toute la doctrine, on la reverra d'ailleurs pour l'homme. Évidemment que ce moyen de connaissance-là, qui est en même temps minable, parce qu'on a besoin du sensible et de la matière pour penser, ce qui est quand même, alors que la matière est infiniment inférieure à l'esprit, bien sûr. Et puis c'est très bon parce qu'on a cette faculté d'abstraction qui est quand même tout à fait étonnante, hein, qui est la lumière intellectuelle. Mais l'ange, évidemment, ne fonctionne pas comme ça. Mais alors s'il n'est pas capable de se faire des idées, car c'est le propre de l'homme de fabriquer des idées, à partir de... il n'invente pas ses idées, hein, mais il les fabrique à partir du donné sensible, par abstraction. L'ange, ben, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça parce qu'il n'a pas de données sensibles dans lesquelles puiser. Seulement, vous comprenez que comme il n'est pas capable de fabriquer les idées, ben il les a reçues. Là, on a un petit avantage sur l'ange, si vous voulez, entre guillemets. Hein, parce qu'il vaut mieux être dans le vrai. Hein, ouais. Il vaudrait mieux, quelquefois, avoir l'intelligence angélique. Hein, et même souvent, ça nous éviterait des erreurs. Bon, il n'y a pas d'erreur chez l'ange. C'est très important, d'ailleurs, ce qu'on dit là. Puisqu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'erreur possible. D'où viennent, puisqu'il ne fabrique pas ses idées, ses représentations intellectuelles, eh bien, il les a reçues de Dieu. Voilà, tout simplement. C'est un capital donné à la création de l'ange. Le capital intellectuel d'un ange lui est donné à sa création. À sa création. À ceci près que ceux qui ont reçu de Dieu directement leurs idées sont un tout petit nombre d'anges. C'est l'Écriture sainte qui nous dit cela. C'est un petit nombre d'anges. C'est probablement les sept qui se tiennent en présence du Seigneur. C'est comme ça que saint Thomas fonde cette doctrine. Bon, il est question de sept anges qui se tiennent en présence du Seigneur. Vous me direz, mais ils se tiennent tous en présence du Seigneur. Ils sont tous dans la grâce et tous au service de Dieu. N'empêche qu'il y en a quelques-uns qui sont tout près du Seigneur. Eh bien, on peut dire que c'est ceux-là et ceux-là seuls qui reçoivent directement leur capital intellectuel de Dieu. Les autres, eh bien, ils reçoivent aussi, parce que de toute manière, et comme un ange ne crée pas d'idées, il faut bien qu'ils les reçoivent. Mais ils les reçoivent les uns des autres. C'est les anges supérieurs, intellectuellement, pas forcément selon les fonctions, hein. Les plus grands anges ne sont pas parmi les chérubins et les séraphins. Vous verrez qu'ils sont dans le huitième cœur, les archanges. Bon, on le verra tout à l'heure. Mais ces anges les plus grands reçoivent directement de Dieu leur capital intellectuel et le transmettent aux autres. Un ange est translucide, si je puis dire, par rapport à un autre. Les anges se voient intellectuellement. Nous, le corps représente une espèce de carapace. On ne voit pas ce que quelqu'un pense. Parce que nous, on voit les autres sensiblement. On voit les autres parce qu'on a des yeux, et on les entend, parce qu'on a des oreilles. Et voilà, la communication entre deux hommes est du niveau sensible. Mais si nous étions de pure lumière intellectuelle comme les anges, ben on verrait ce que les autres pensent. Alors de là à leur chipper, si je puis dire, leur capital intellectuel, c'est tout simple. Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est très important pour comprendre la chute des anges, qu'on verra tout à l'heure. Si un ange supérieur dégringole, il fait dégringoler avec lui les autres. Et si un ange supérieur reste fidèle, il emmène dans sa fidélité les autres. Alors ça, c'est comme chez les hommes. Hein. On voit bien que l'influence des hommes, les uns sur les autres, est considérable. Considérable. C'est un grand mystère, d'ailleurs. Hein. Aussi bien pour le bien que pour le mal. Mais nous, c'est au niveau sensible. L'exemple, le mauvais exemple, etc., le bon ou le mauvais exemple. C'est encore plus intime chez les anges, puisque c'est au niveau intellectuel qu'ils ont une influence les uns sur les autres. Voilà, et on le verra pour la chute.
Mais ils ont une liberté.
Évidemment qu'ils ont une liberté. Puisqu'ils ont une volonté, ils ont une liberté. Mais ils sont un peu conditionnés. Imaginez que vous puisiez, on ne peut pas se représenter ça, que vous puisiez vos idées, votre capital intellectuel, chez un autre homme. Directement. Alors remarquez, ça arrive. On a quelqu'un qu'on admire beaucoup, qu'on voit, il a sur nous une influence considérable, c'est vrai. Mais chez nous, ça passe par le sensible. Tandis que, comme il n'y a pas de sensible chez les anges, c'est directement d'intellect à intellect. Voilà. Alors les anges inférieurs, autrement dit les plus nombreux, sont dépendants. Regardez Lucifer, un très joli mot, soit dit en passant, c'est la lumière, le porteur de la lumière. Eh bien, on voit bien que c'était le plus grand des anges, l'Écriture sainte le dit, et c'était certainement celui duquel tous les autres anges, y compris les plus grands, tiraient leur lumière. Aussi bien d'ailleurs proprement naturel que surnaturel, car vous allez voir tout à l'heure, au paragraphe suivant, la grâce et la lumière intellectuelle des anges coïncident. Voilà, très important pour la chute. J'ai une petite remarque là en bas, les autres je les ai faites. Les anges ont été créés avec la matière, à l'origine du monde, et l'homme bien après. C'est l'enseignement du Concile de Latran. Le temps de la création des anges, c'est avec la matière. C'est curieux. C'est l'enseignement du Concile de Latran. L'homme est une créature très tardive. Les hommes, il y en a depuis 10 000 ans, et puis c'est tout. C'est vraiment le dernier sorti des usines de Dieu. Alors, voilà. Mais le monde est très vieux, très très vieux, et le magistère de l'Église, fondé sur la Sainte Écriture, place la création des anges, et leur chute, c'est assez rapide, et leur salut pour ceux qui sont dans la béatitude, au moment à peu près de la... Alors on peut parler de moment, puisqu'à partir... À partir du moment, c'est le cas de le dire, qu'il y a une créature, alors le temps commence. Voilà. Venons-en à la grâce des anges. Les anges, comme les hommes, ont été créés dans la grâce de Dieu. Si on a bien compris un peu les œuvres de Dieu, ce qui intéresse Dieu, c'est la grâce. C'est pas de faire une belle création qui marche bien et qui tourne bien. Bon, ce qui l'intéresse, c'est le rapport qu'on nourrit avec lui. Et ça, comme il est surnaturel, ce rapport où qu'il n'est pas, eh bien, ce qui intéresse Dieu, c'est de nous créer dans la grâce. On dit bien dans tous les cours que l'homme, d'une part, et les anges, d'autre part, auraient pu, c'est vrai, puisque la grâce est gratuite, Dieu aurait très bien pu créer et les hommes et les anges sans la grâce. Bon, c'est parfaitement exact. Mais c'est très théorique. Si on connaît un petit peu le bon Dieu, on comprend très bien que ce qui l'intéresse, c'est de nous créer dans la grâce. Voilà. C'est le rapport d'amour qu'il y a entre nous et lui. Et ce rapport, il ne peut exister que si Dieu fournit la grâce. Parce que c'est pas un homme, ni même un ange, qui peut s'élever à cette amitié divine. C'est impossible, et à un homme comme à un ange. Donc, j'allais dire, si on comprend bien, encore que Dieu puisse toujours rester libre de ne pas créer ses créatures dans la grâce, ben à tous les coups, il l'a fait. Parce qu'il est comme ça. Voilà. Amitié, participation à la vie divine, on reverra plus tard ce que c'est que la grâce. Mais alors que les hommes reçoivent cette grâce sans aucune relation à leur nature, il faut encore comprendre ça, c'est très intéressant comme thèse de saint Thomas, hein. Les hommes reçoivent la grâce indépendamment de leur nature. On va y revenir. Les anges ne pouvant y mettre obstacle, un ange ne met pas obstacle à la grâce. C'est très curieux ce monde angélique, hein. C'est tout bon ou tout mauvais, un ange. Comprenez, c'est notre sensibilité, nous. C'est toute la partie des passions et de la sensibilité, de l'imagination, c'est toute notre complication, hein, qui fait qu'on est un peu fidèle à la grâce, un peu beaucoup, un peu moins, un peu plus. Alors, ce qui fait que... Mais imaginez que les hommes ne mettent aucun obstacle à la grâce, pour ceux qui la reçoivent. Ben, Dieu la donnerait en proportion de la nature. Il ferait pareil. Un ange n'a pas toute cette partie sensible qui fait qu'il biaise. Alors, Dieu lui donne autant de grâce qu'il le peut. Et quelle est la mesure de cette grâce que Dieu donne aux anges? Eh bien, la mesure de leur nature. Ce qui fait qu'entre les dons de la nature et les dons de la grâce, chez un ange, ça coïncide. C'est-à-dire que les anges les plus doués naturellement, intellectuellement et volontairement sont les plus gratifiés par Dieu. D'où, hein, ce qu'on a dit précédemment, ceux qui se tiennent en présence du Seigneur, qui reçoivent de Dieu directement leur capital intellectuel, sont également ceux qui sont le plus proches de lui au niveau de l'amour et de la grâce. Voilà. Chez les hommes, c'est pas du tout comme ça, et on a donné la raison. Chez les hommes, vous avez tout. Vous avez des hommes très doués dans la nature, et très doué dans la grâce. Exemple, saint Thomas d'Aquin, saint Bernard, saint Augustin, et beaucoup d'autres, et saint Paul, et j'en passe, et des meilleurs. Vous avez des hommes pas doués du tout dans la nature, et très très forts dans la grâce. Bon, regardez le curé d'Ars, saint Germaine de Pibrac, voilà. Il n'y a pas de correspondance. Vous avez aussi des hommes très doué, hein, enfin très très doué dans la nature et puis sans aucune grâce. Voltaire, Nietzsche et compagnie, voilà, catastrophe. Puis vous avez aussi des gens pas doués dans la nature du tout et pas doués dans la grâce du tout. Bon, ça existe. Je donne pas de nom parce qu'ils sont pas connus ceux-là. C'est vraiment les minables, quoi. Bon, c'est pas de leur, enfin pour la nature c'est pas de leur faute. Pour la grâce c'est de leur faute. Voilà. Donc, il n'y a pas de correspondance, aucune chez les hommes. Et comprenez la raison. La raison, c'est qu'un homme reçoit la grâce, j'allais dire, au compte-goutte, en quelque sorte, y mettant obstacle ou n'y mettant pas obstacle, étant fidèle ou étant infidèle, étant un peu fidèle, étant un peu moins fidèle, un peu plus fidèle. Et puis, on voit bien qu'on fait comme ça, on négocie ça tous les jours, nous. Hein. On négocie ça tous les jours. Voilà. Mais alors, chez les anges, eh bien, c'est vraiment pas un monde démocratique. Hein. C'est vraiment l'inverse d'un monde démocratique. Les plus doués sont les plus aimés de Dieu, et ceux qui aiment le plus Dieu. Voilà. Alors, il y a des grands, et puis il y a des petits. C'est comme ça. Et puis c'est Dieu qui a fait ça. Hein. Des grands tous azimuts, et des petits tous azimuts. Voilà.
C'est comme ça. Et en plus, les petits reçoivent leur lumière par leur grâce, attention, leur lumière intellectuelle. Ils reçoivent leur grâce, ils la reçoivent directement de Dieu, comme toute grâce. Mais leur lumière intellectuelle, ils la reçoivent des plus grands. Ils sont vraiment dépendants, hein. Vraiment dépendants. D'où on verra dans la chute, quand vous avez le plus beau d'entre eux qui dégringole, et c'est le cataclysme dans ce monde angélique. C'est le cataclysme. Le cataclysme. Le nombre des anges, il est proprement inimaginable, puisque, évidemment, la Sainte Écriture ne donne pas de chiffres, évidemment, mais à chaque fois qu'elle en parle, c'est des milliers de milliers, c'est des myriades de myriades, etc. Et 1000 dans la Sainte Écriture, retenez-le, n'est pas un chiffre. Faut pas, quand la Sainte Écriture dit 1000, c'est pas 1000. C'est pas 999 plus 1. C'est 1000, c'est une foule. Voilà. Et quand il dit des milliers, deux milliers, alors c'est le carré de 1000, et c'est proprement la chose indénombrable. On dirait que ça, on n'est pas fixé. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas fixé, mais bon. Les théologiens du Moyen-Âge s'amusaient à donner le chiffre, le nombre des anges, alors ils arrivaient à un près, je ne sais pas comment ils faisaient d'ailleurs, c'était n'importe quoi, mais on ne sait pas, hein, on ne sait pas le nombre des anges. Par contre, on doit croire que c'est à profusion. Notez bien une chose, c'est qu'en général, Dieu fait en plus grand nombre les choses les plus parfaites, et en moins grand nombre les choses les moins parfaites. Regardez, dans la Sainte Église, c'est comme ça que ça marche. Le plus grand sacrement, c'est l'Eucharistie, et c'est le sacrement quotidien. Voilà, les autres, on les reçoit de temps à autre. Et voilà, on est dans un monde de la grâce, vous comprenez ? Alors, c'est vraiment le monde de l'aristocratie, hein, et non pas de la démocratie. Ce qui est... dans les monoprix, c'est l'inverse. Dans les monoprix, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire, les choses les moins chères, elles sont en plus grand nombre. Mais dans le royaume de Dieu, les choses les plus belles, les plus chères, elles sont en plus grand nombre. Voilà, c'est la richesse de Dieu. Donc je vous ai cité Daniel que vous connaissez bien, un fleuve de feu coulait sortant de devant lui, 1000 milliers le servaient et une myriade de myriades se tenaient debout devant lui. Ne me demandez pas ce que c'est que la myriade, j'en sais rien, il faudrait étudier. Voilà, soit dit entre parenthèses, chacun de nous a son ange gardien, qui est pris seulement dans le 9e cœur des anges, qui n'est pas forcément le plus nombreux. Voilà, ce qui fait qu'il y a plus d'anges dans ce 9e cœur qu'il n'y a d'hommes. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire. Après, est-ce qu'un ange gardien resserre tout ça? On n'en sait rien. L'Écriture sainte ne... Voilà, vous pensez que non, vous? Tant mieux pour vous, mais vous pouvez pas plus prouver ceci que prouver le contraire. Si, si, c'est marqué dans la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, c'est notre Seigneur qui a dit ça, hein? En parlant des petits-enfants qu'il ne faut pas scandaliser, il termine « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits qui croient moi, car leurs anges contemplent, leurs anges, ils ont bien un ange à eux, contemplent sans arrêt la face de mon Père qui est dans les cieux. » Bon, c'est là-dessus que se fonde l'ange gardien, c'est béton d'ailleurs, puisque c'est une phrase de notre Seigneur. Mais de là, bon, on dit que les prêtres ont deux anges gardiens, moi je le crois volontiers, hein, je prie les deux, bon... Bon, très bien, mais tout ça n'est pas fondé dans la Sainte Écriture. Bon, alors, mais vous avez une citation au nom de la Sainte Écriture qui nous dit que les anges ne resservent pas ? Bon. Voilà. Remarquez, moi, personnellement, hein, ça m'étonnerait que Dieu ait besoin de...
Parce que notre ange nous suit ensuite, hein, que ce soit au purgatoire aussi, hein.
Oui, mais les anges, c'est des bons anges, hein, et il ne va pas nous suivre en enfer, là, il nous abandonne, hein. Oui, oui, ça, c'est vrai, ça. Ça, vous avez de bonnes citations pour le dire, je pense. Ah, voilà, il reste jusqu'au bout. Et si, à supposer même, ouais, à supposer qu'un ange gardien ait été l'ange gardien d'un damné, alors après, il est au chômage ? Il ne resserve plus. Bon. Si saint Thomas le dit, ça doit être vrai. Vous chercherez. Voilà, enfin, tous les cas, pourquoi on dit ça ? Pour montrer le nombre des anges. Absolument. Faramineux, puisque si on regarde le nombre d'hommes qui ont couru sur la surface de la Terre depuis la création jusqu'à maintenant, déjà qu'il n'y en a pas loin de 5 milliards en ce moment où on parle, mais il y a tous ceux qui sont morts et enterrés et c'est pas fini, hein. Voilà, Mais tournons la page et abordons l'épreuve des anges. Vous avez retrouvé ?
Non, j'ai marqué « Chaque ange ne protège qu'un homme ». Et ça, j'ai pris ça dans Boulanger. Alors, je crois que le Boulanger
a pris. À vérifier. À vérifier. Nous abordons l'épreuve des anges. Les anges, avons-nous dit, ont été créés en état de grâce, mais non point au paradis. Ne fais pas l'erreur des enfants. Au catéchisme, c'est toujours comme ça. Pour eux, le paradis et la grâce, ça va ensemble. C'est idiot. Non. Si on était créé déjà au paradis, c'est-à-dire dans la vision de Dieu, ben, il n'y aurait pas de choix, on n'aurait pas mérité la béatitude et l'éternel, et puis ensuite, il n'y a pas possibilité à la chute, etc., alors on ne comprend plus rien. Mais les enfants ne veulent pas se mettre ça dans la tête. Il faut leur expliquer 20 fois avant qu'ils fassent la différence entre avoir été créé dans la grâce, c'est-à-dire l'amitié de Dieu, et au paradis. Je crois que ça vient de ce que la Sainte Écriture appelle le paradis terrestre. Alors, paradis, c'est le paradis pour eux. Hein, mais alors, il faut bien leur expliquer qu'il s'agit du paradis terrestre et non pas du paradis tout court. Bref. Ils pouvaient donc, par définition, être tentés et tomber. C'est pas parce qu'on est dans l'état de grâce qu'on n'a pas de tentation, qu'on n'a pas d'épreuve. Au paradis, non. Alors là, par contre, la vision de Dieu supprime toute espèce de tentation et de possibilité même de faire le mal. C'est la vraie liberté, ça. Deuxième point, Dieu soumet toutes ses créatures, toutes les créatures qu'il aime, à des épreuves. Voilà. Dieu propose toujours le bien, il propose le mieux, à raison même de l'amour qu'il nous porte. Si vous aimez quelqu'un, vous voulez qu'il s'améliore. Si vous voulez qu'il s'améliore, il faut qu'il en fasse un peu plus. C'est terrible, hein, mais Dieu est insatiable. Insatiable. Bon. Alors, c'est le propre de l'amour. Bon, moi je prends l'exemple des parents. Les parents qui aiment leurs enfants... Eh bien, chaque jour, regardez ce que c'est que l'éducation d'un enfant. Chaque jour, c'est de lui proposer un petit peu plus, mais pas tes coudes sur la table. Bon, voilà, tiens-toi droit. Bon, c'est sans arrêt qu'on lui demande des efforts. Hein. Puis quand il a réussi à ne plus mettre ses coudes sur la table et son bec dans l'assiette quand il mange, eh bien, si son papa et sa maman l'aiment toujours et un peu plus, ben, ils vont lui demander des efforts un peu plus grands. Hein. Range ta chambre, tu feras ton lit toi-même, etc., etc. Puis tu te brosses les dents, et puis lave ton cou, parce que ça vient, etc. Et j'en passe, et puis s'il fait ça, ben, on vient lui proposer encore autre chose, et puis etc., jusqu'à en faire un grand bonhomme. Eh bien, pourquoi les parents font ça? Pour enquiquiner leurs enfants? Sûrement pas. C'est ceux qui ne les aiment pas qui ne font pas ça. Et qui les laissent sans arrêt en friche, là, et puis on fait des petits voyous à 13 ans qui vont bien le rendre, d'ailleurs, à leurs parents. Hein. Ça, c'est... les enfants, les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants vers 14-15 ans, ils ne l'ont pas volé. Grosso modo. On dit toujours qu'il y a les têtes brûlées, c'est pas vrai, ça. On récolte exactement ce qu'on sème dans l'éducation. Bon, et bien Dieu qui nous aime bien plus que nos parents, et bien il ne nous fournit pas tout sur un plateau, il nous améliore chaque jour. Ça, vous comprenez que pour les hommes, il peut faire ça au compte-gouttes. Chaque jour, un petit peu plus. Pour les anges, il ne peut pas faire ça. C'est au compte-gouttes, il a fait ça d'une seule fois. Parce qu'un ange, c'est tout bon et tout mauvais. Il n'y a pas de péché véniel chez un ange. Il n'y a pas de péché véniel. La phrase du livre de Job qui dit que Dieu repère des pravitatem, le mot est fort, hein, Dieu repère des défauts, il faut traduire par défauts, dans ses anges. Même dans ses bons anges, dans les livres de Job, il est question des bons anges. Dieu repère des défauts en eux. N'est pas à interpréter du tout sous la forme de péché, et même de péché léger, de péché véniel. C'est simplement que, qu'est-ce que vous voulez, comme toute créature, les anges sont imparfaits, et que l'imperfection de ces créatures, Dieu la voit en permanence. Donc Dieu est capable de repérer des trucs qui vont pas dans ses bons anges. Et c'est parfaitement exact, sinon il n'y a que Dieu qui est parfait, vous savez. Voilà. Mais c'est pas du tout à interpréter, cette pravitatem, le mot est très fort, c'est ce qui est déviant. N'est pas du tout à interpréter dans une culpabilité des anges, même légère, surtout pas d'ailleurs. Un ange, c'est tout bon ou tout mauvais. Donc l'épreuve des anges, elle a été unique et pour eux, définitive. Voilà.
Dieu, évidemment, ne propose jamais la tentation. Hein? Distinguez bien l'épreuve qui propose le bien. Lorsqu'un papa demande quelque chose à son enfant, de faire un peu mieux, c'est parce qu'il a qu'une envie, c'est qu'il fasse mieux. Et qui devienne un peu meilleur, un peu plus grand, un peu plus... qu'il ait plus de volonté, qu'il se tienne mieux, etc. Il n'y a que ça, les parents qui aiment leurs enfants. C'est la seule chose qu'ils veulent. Mais vous comprenez qu'un papa qui prendrait son petit gamin là, de 4 ans et qui l'emmène au bord du précipice, hein, et qui lui dit, mais alors avance encore un pas, allez, encore quelques centimètres, etc., hein, pour que finalement, le petit, en l'écoutant, se casse la binette dans le précipice, bon, alors ça, c'est odieux. C'est simplement odieux. Évidemment que Dieu ne fait pas ça. Heureusement que Saint-Jacques a mis les points sur les i, hein. Enfin, ça n'a pas servi de leçon aux modernistes, puisqu'ils ont encore parlé de nous soumettre à la tentation dans le nouveau Notre Père. Complètement fou. Et c'est blasphématoire, cette traduction nouvelle. Hein. Ne nous soumets pas à la tentation. On voit bien que c'est une traduction tout à fait hérétique. Enfin, absolument blasphématoire. Hein. Si on pense que Dieu nous aime, par définition, il ne nous soumet pas à la tentation. La tentation comporte l'hypothèse du mal. Et c'est en cela qu'elle se distingue de l'épreuve. Hein. Alors Saint-Jacques a mis les points sur les i. Hein. Si quelqu'un est tenté, dit Saint-Jacques, c'est très clair, hein, son épître, et qu'il ne dise pas, ça vient de sa mauvaise nature, mais qu'il ne dise pas que ça vient de Dieu. Dieu ne soumet aucune de ses créatures à la tentation, aucune. Alors après un texte aussi clair de l'épître de Saint-Jacques, ils auraient pu garder leur traduction pour eux. Hein. C'est franchement, ils l'ont copié sur la traduction protestante, qui n'y a rien vu, refusant tout à fait. C'est tout à fait protestant, ça. C'est Luther, le mal est incoercible, on ne peut pas arrêter dans le mal, donc Dieu soumet à la tentation, on tombe, et puis Dieu ne tient pas compte de nos péchés, c'est tout à fait, c'est luthérien. Bref, fermons cette parenthèse, on reverra ça pour l'homme aussi, qui a eu des épreuves. Quelle a été l'épreuve des anges? Dieu leur a demandé d'adorer le Fils de Dieu fait chair. Voilà. Alors évidemment, vous trouverez dans la Somme des digressions sur l'ange qui veut ressembler à Dieu, etc. Hein? C'est-à-dire acquérir par sa propre force la béatitude éternelle et ce qui l'égale à Dieu. Bon. Bien, une complaisance excessive dans sa propre bonté, dans sa propre... Alors c'est vrai, tout ça. Mais sous quelle forme? Sous quelle forme? Ce lien de dépendance qu'un ange voit, de toute évidence, il le voit comme je vous vois. Il le voit, ce lien de dépendance qui fait qu'il est une créature et que Dieu est le créateur. Et ça, il peut... Et puis comme il n'y a pas d'erreur chez les anges, et s'il le voit, il le voit. Voilà. Donc l'épreuve des anges est décrite dans la Sainte Écriture d'une toute autre manière. On sait ça par l'épître aux Hébreux, hein, 1, 6. C'est l'épître de la messe de Noël. Bon. Quand il introduit son premier-né dans le monde, Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà. Ça, moi, c'est tout à fait concret. Ça n'empêche pas cette complaisance en eux-mêmes. Hein, parce que quand un ange voit un ordre divin, il sait que c'est un ordre divin, et préférer son propre jugement au jugement de Dieu, c'est précisément tout ce que dit saint Thomas, faire un pari sur sa propre excellence au lieu de miser sur l'excellence de Dieu. Quand il introduit son premier-né dans le monde, Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le premier-né de Dieu, c'est évidemment notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il l'introduit dans le monde, c'est le mystère de l'incarnation. Et donc, ce premier-né introduit dans le monde, c'est le Fils de Dieu, fait homme. Et c'est le fait homme qui fait problème. Enfin, qui fait problème, qui fait épreuve pour ses anges. Et Dieu donne un ordre à tous ses anges, sans aucune exception, d'adorer ce premier-né. Alors, ce qui est parfaitement juste, puisque Jésus-Christ est Dieu, et il le voit, la divinité de Jésus-Christ n'est pas un acte de foi pour eux. C'est une vision. Hein. Et comment il le voit? Il le voit parce que Dieu le leur donne. En quoi a consisté l'épreuve des anges? Dieu leur a donné un capital intellectuel supplémentaire, c'est-à-dire la révélation du mystère de l'incarnation. Voilà, qu'est-ce que Dieu a fait pour les bras des gens? Il leur a révélé ce mystère. C'est...
Alors c'est parfaitement juste, puisqu'ils voient que Jésus-Christ est Dieu et qu'ils lui doivent adoration de la même manière qu'ils la doivent à Dieu. Voilà. Ce qui est évidemment très difficile pour un ange, parce que le Fils de Dieu est revêtu d'une nature inférieure à la leur, hein, c'est-à-dire la nature humaine, qui doit paraître dérisoire aux anges, réfléchissez. Voilà. Qu'on ait besoin de manger, de boire et de dormir, qu'on ait besoin d'une imagination pour penser, qu'on ait besoin de... Enfin, on est vraiment minable pour des anges. Au point de vue naturel, au point de vue de la grâce, on peut même les dépasser, hein. Mais au point de vue de la nature, ils doivent dire, mais c'est pauvre, hein. Ça va être comme pour nous, les chimpanzés, quoi, à peu près, quoi. C'est vrai. Bon.
Alors, donc, c'était un don de plus, la révélation de l'incarnation.
Oui, c'était un don. Dieu peut toujours... on a vu que le capital intellectuel des anges leur était fourni à la création. Bon, en principe, on en reste là. Mais Dieu, là, a infusé dans ses anges une nouvelle... c'était une révélation du mystère de l'incarnation. Oui, très exactement.
C'est une grâce de plus.
C'était une grâce, mais qui constitue aussi une épreuve. Comme toute grâce, hein, voilà. Mais c'est une épreuve. Mais c'est une... voilà. Comment Dieu a fait, et là, on le voit bien... La suite, on le voit bien. Mais il a donné ça à ses plus grands anges. Et en particulier, c'était certainement Lucifer qui a eu connaissance du mystère de l'incarnation, dans le monde angélique en tout cas, hein, le premier. Et le premier, à part Dieu, qui ait connu le mystère de l'incarnation, c'est très probablement Lucifer. Les autres, les anges n'existent pas. Et les autres anges recevront de Lucifer, hein, cette révélation du mystère. Voilà. Donc le premier, c'est vrai, j'y pense en vous le disant, mais c'est d'après tout le reste, c'est très clair. Le premier à avoir connu le mystère de l'incarnation, c'est Lucifer. Il n'y a aucun doute de ça. Voilà, alors derrière Lucifer, eh bien, le porteur de la lumière, Lucifer est un très beau prénom, hein, notez bien. Les premiers chrétiens le donnaient à leurs enfants. Bon, aujourd'hui, si vous faisiez ça, ça ferait, comment t'appelles-tu? Ben, Lucifer Durand. Lucifer Durand ou Lucifer Dupont. Il y a des saints Lucifer au début de l'Église. Hein. Il y a des grands évêques du concile de Nicée qui s'appelaient Lucifer. Hein. Et c'était un nom que les chrétiens aimaient donner. Évidemment, nous, maintenant, Lucifer, c'est Satan. C'est, voilà, on est, les anciens étaient moins conditionnés par les mots que nous. Lucifer est un très beau prénom. Hein. De Satan avant sa chute, lorsqu'il était très beau, eh ben, ils ont gardé la beauté du dispositif, si je puis dire. Voilà. Derrière Lucifer, le porteur de la lumière, hein, est certainement le plus beau des anges. Il se révolte contre Dieu. Alors son cri est dans le livre d'Isaïe, Non serviam. Il est très... j'allais dire, c'est plein de psychologie. Vous voyez que Lucifer ne dit pas « Je comprends pas ». C'est faux, il comprend tout. Hein. Il ne dit pas « c'est trop fort ». Il ne dit pas... voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un cri de révolte de la volonté. Ce n'est pas au niveau de l'intelligence. Il n'y a pas de péché intellectuel des anges. Ils sont tellement lucides, ils sont tellement clairvoyants, si je puis dire, qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et le cri de Lucifer est très clair. Ça veut dire que, il se condamne lui-même par ce cri, en ce sens que non serviam, tout ça c'est vrai, tout ça c'est normal, tout est en place, Dieu est juste, etc., etc. Mais moi je refuse, non serviam, je ne servirai pas. Voilà, c'est non. Alors c'est là où se branche toute la doctrine de saint Thomas. Hein, il a fait confiance beaucoup plus à lui-même qu'à Dieu, tout simplement. Voilà. Ce cri dans le livre du prophète Isaïe. Et comme les anges, vous comprenez, ont sur eux, les uns sur les autres, une influence considérable, et que c'est le premier d'entre eux, et le plus grand et le plus intelligent, effectivement, quand vous avez quelqu'un de 10 fois plus intelligent que vous qui vous dit « c'est comme ça », ben vous avez tendance à lui faire confiance. Ça, c'est évident. C'est un grand mystère, hein. Aussi bien chez les hommes que chez les anges, que dans le bien comme dans le mal, on est les uns sur les autres une influence aussi considérable. Mais on ne peut pas le nier, chez les hommes c'est évident, ça crève les yeux. Quand vous avez un homme juste et droit et bon et intelligent, et ceux qui l'entourent en profitent. Quand vous avez un homme corrompu et dans l'erreur, et dans, et ben les autres aussi
Ça, on est toujours libre, hein. On est toujours libre de suivre ou de ne pas suivre. N'empêche que, comme la masse suit, la masse suit. Et donc, derrière Lucifer, eh bien, un grand nombre d'anges, entraînés par la facilité, et puis, j'allais dire, cette griserie, hein, non serviam. C'est toujours un peu grisant de dire, ah ben moi je dis non. Vous avez des gens qui ne marchent, moi je dis non, je m'affirme, vous voyez. Chez les hommes, c'est exactement pareil, hein. Il y en a qui passent leur temps pour affirmer leur personnalité à dire non. Voilà. Moi, c'est non. Vous comprenez ? Moi, c'est non. Voilà. C'est toute leur personnalité, c'est voilà. C'est non, c'est de dire non. Il y a une espèce de griserie du non. Voilà. Les révolutionnaires, c'est ça. Dans les années 68, en France, il fallait contester. Sinon, vous étiez un imbécile. Diplômé imbécile. Vous ne contestez pas, vous n'avez pas acheté de pavé cette nuit, là, en mois de mai 68, ben, vous êtes un imbécile. Alors que la bande d'imbéciles, c'est ceux qui faisaient exactement comme les autres, ça consistait à dire non. Bon. Voilà. Alors ils se révoltent, et puis alors, comme il n'y a pas de... Alors il n'y a pas de miséricorde pour les anges, hein. Aucune. C'est la lucidité des anges qui leur ferme toute miséricorde. Vous c'est le péché dans la lumière. C'est le péché contre l'esprit. Il n'y a que ça chez les anges. C'est-à-dire le péché contre la vérité connue. Alors, ils connaissent très exactement la chose. Nous, on est toujours dans l'erreur, on est dans l'appréciation, etc. Remarquez, on n'a pas d'excuse non plus, hein, quand on fait un péché, c'est pas ce que je veux dire. Puis en plus, on vit dans le temps. Alors, ce qu'on a bien fait hier, on peut le faire mal aujourd'hui, ou ce qu'on a mal fait hier, on peut bien le faire demain. Enfin, vous comprenez que, voilà. D'où la miséricorde. Hein. Et puis en plus... Nous, le premier péché, eh bien, on n'était pas là. Hein. Vous comprenez, c'est quand même très important. On n'était pas là. Nos péchés personnels, on est là et on a une certaine lucidité. Mais le péché qui nous a condamnés, hein, eh bien, on n'était pas là. C'est le péché d'Adam et Ève. Et il n'est personnel qu'en Adam et Ève, même s'il allait...